un podcast France Culture.
Yves, il y a un loup qui arrive. Superbe, il est en train d'arriver sur le site. On l'a jamais vu. Il y en a d'autres derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a au moins 6 même.
La scène dont on rêvait,
quoi.
Ouais. Oh là là là, ça c'est quand même.
Ils viennent vers nous.
La récompense, des heures et des heures et des heures, des dizaines d'heures d'attente.
Ça me rappelle combien de fois je me suis cassé les dents. Combien de fois j'ai passé des jours, des semaines entières à regarder la neige tomber, des corbeaux seulement, et j'ai pas vu un seul loup.
Se mettre à l'affût du monde sauvage, attendre des heures et des heures pour se donner la chance de voir, ne serait-ce qu'une seule fois, l'animal mythique tant convoité et espéré. Qu'il s'agisse d'un loup, d'un ours, d'un oiseau ou d'une toute autre espèce, ces amoureux de la nature partent en quête du monde vivant, mais aussi bien souvent d'eux-mêmes. Alors pourquoi ne pas plonger avec eux dans ces aventures du bout du monde et mettre nos pas dans les leurs pour mieux comprendre ce besoin qui les pousse à partir sur la piste du monde sauvage. Avec nous, Olivier Larrey, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes photographe animalier professionnel, auteur avec Yves Fagnard d'un très beau livre qui s'est intitulé Terre de loup, édité par Le Regard du Vivant, et aussi on peut mentionner le film réalisé avec Tanguy Dumortier, L'affût au loup, dont nous venons justement d'entendre un extrait. Et avec vous et nous, Élise Rousseau, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes autrice, scénariste de bande dessinée, passionnée par la nature, les animaux. Votre dernier livre s'intitule Mazalaï. Il est édité chez Albin Michel. Et puis dans l'œil du Monde Planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Brice Pedroletti, correspondant à Bangkok, nous parlera du chantier de la future capitale indonésienne qui se veut une ville-forêt. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et l'appui aussi des équipes de documentation de Radio France. Émission toujours réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Pierre Monteil.
C'est pas une cabane, c'est un affût, mais c'est un endroit dans lequel on va rester planqué pendant des jours et des jours et des nuits, peu importe les conditions météo. C'est comme si nous venions nous mettre dans une cage ou une forme de prison. Le fait d'être ici dedans, c'est l'intention est d'être incolore, invisible et inodore. Mais je pense que les loups savent très bien qu'on est là. Et ce sont eux qui sortiront quand ils décideront s'ils veulent se montrer à nous ou pas.
Nous venons d'entendre la voix de celui qui a été votre compagnon de route, Olivier Larrey, dans cette aventure, le dessinateur Yves Fagnard. Et donc, il nous parle de cette cabane, cet affût, finalement, que vous avez vécu ensemble, qui vous rassemble. Au-delà de votre passion pour la nature, le vivant, les grands espaces, les lieux extrêmes. Et c'est aussi cet affût que vous avez en commun, tous les deux, Olivier Larrey et Élise Rousseau. Parlons justement de l'affût, Olivier Larrey. C'est vraiment... une pratique spécifique, il faut rentrer dans l'affût, on peut dire ça comme ça.
Je dirais que pour un certain nombre d'espèces, c'est une technique qui est indispensable, parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup d'espèces qui craignent l'homme pour des tas de raisons. Et c'est vrai que de se fondre dans le décor le plus possible, ça permet de compenser les carences aussi de nos sens par rapport aux animaux. Quand on démarre la photographie animalière, par exemple, on a l'œil pas assez aiguisé, les oreilles pas assez attentives à tout ce qui se passe. Je pourrais même parler de l'odorat, qui aussi peut être un complément. Et en fait, l'affût, ça permet de déjouer un petit peu les sens des autres espèces, des animaux, qui d'un coup ne nous voient pas comme on est. Et du coup, en quelque part, en se rajoutant cet avantage, on peut accéder à des observations incroyables qui sont quasiment impossibles si on se balade en milieu naturel et qu'on se présente face à un animal On va faire du bruit, il va nous sentir, il va nous entendre. Après, l'affût, ça a quelque chose de magique au-delà de la simple observation. C'est que c'est un moment où où se mêlent le réel et l'imaginaire. C'est quand on est dans un affût, on rêve de ce qu'on pourrait voir. Il y a notre monde intérieur qui travaille. Et on est dans un monde de silence, on est dans un monde où on va être très très attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Et ça fait beaucoup de bien, parce que ça tranche avec notre vie quotidienne où on est perpétuellement sollicité par des bruits, des interférences. Et là, d'un coup, le calme et la sérénité qui s'installent dans l'affût de fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable.
Élise Rousseau, c'est une école d'humilité, de patience.
Alors c'est aussi une école où on s'ennuie beaucoup parce qu'on attend des heures sans rien voir et des fois on voit rien. On peut avoir aussi mal partout, des courbatures. Effectivement, là, moi je souriais parce qu'en entendant l'histoire de l'imaginaire qui travaille, c'est exactement ça. Alors des fois ça ne travaille pas toujours dans le bon sens me concernant, c'est-à-dire que je peux avoir un peu peur en fait.
Donc, oui, vous le dites, vous n'êtes pas une intrépide. Hein.
Non, on est un peu seul dans la nature avec plein de choses qui se passent là, ou qui ne se passent pas. Et donc c'est vrai qu'on trouve un peu dans un affût ce qu'on y apporte aussi intérieurement. C'est intéressant pour ça.
Mais c'est jouer aussi de ces sens à soi qu'on oublie probablement d'utiliser comme ces animaux utilisent leurs sens d'ailleurs. C'est qu'on oublie peut-être dans la vie au quotidien, bruyante, hein, comme le disait Olivier Larrey. Et tout d'un coup, il y a aussi ce silence qui s'impose. Et donc, on imagine qu'il faut aussi presque une force psychologique, hein, se mettre aussi mentalement dans cette disposition, Élise Rousseau.
Alors silence ou pas, parce que ça dépend du milieu naturel où on est. Si on est en forêt, par exemple, ça peut être assez bruyant, hein, une forêt. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, des oiseaux qui chantent, des craquements de branches. Alors après, si on est dans un désert ou dans une zone effectivement arctique, etc., là par contre, oui, ça va être des... Mais alors, il y a aussi les sensations physiques, c'est-à-dire effectivement, par exemple, ça peut être le froid, le chaud. Je connaissais un photographe animalier qui faisait des affûts à moitié dans l'eau, donc j'imagine que les sentiments aussi d'humidité, moi je trouve ça rude, hein, les affûts, hein. J'en ai fait beaucoup moins qu'Olivier, mais les quelques-uns que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était, je crois pas que tout le monde puisse en faire en fait, faut avoir comme oui une certaine force mentale et une endurance à la patience en fait, à une forme d'ennui parfois.
Hein. Olivier Larrey, l'affût en toute saison, hein, vous l'avez pratiqué. Et on sent aussi dans le film, notamment l'affût au loup, hein, cette dureté, hein, et puis cette endurance qu'il faut aussi à la fois physique et mentale. Cette cabane de l'affût que vous avez donc pratiquée, dans laquelle vous avez vécu, elle a de quoi de particulier et comment est-ce que vous l'avez choisie? Parce qu'il faut la situer, elle est à la frontière de la Finlande et de la Russie.
C'est ça, exactement. En fait, ça fait 25 ans que je vais en Finlande régulièrement. Et le long de la frontière russe, qui est une région très propice à l'observation des grands prédateurs, il y a quelques endroits où il y a des affûts, qui sont des petites cabanes. Ça peut être pour une personne. Nous, on avait un affût qui était un peu plus grand, puisqu'on était trois, qui sont là de manière permanente et qui ont été construits au départ pour l'observation des ours bruns, qui sont assez présents de part et d'autre de la frontière. Le principe de ces affûts, dans la mesure où on est dans un milieu qui est fermé, plat, donc on n'a pas de relief en Finlande, c'est qu'on est obligé de mettre un petit peu de nourriture pour susciter l'intérêt des animaux. On le fait de manière très modérée. En fait, c'est un petit coup de pouce pour l'animal, ça polarise son attention. Pour autant, ça garantit aucun succès, mais ça permet de faire un voyage immobile, en fait. Et il se trouve que sur un des sites, qui est propice à l'observation des ours, il y a une meute de loups qui s'est établie. Et mon ami Yves et moi, on avait observé, dans un projet précédent, 2 minutes, un loup, sur un patent très très long. Et on rêvait, si on revenait faire un projet en Finlande, de focaliser notre attention sur les loups. Et il se trouve qu'en suivant un petit peu les différents sites, parce qu'on est très implanté dans le réseau finlandais naturaliste, ben on a compris que si on voulait se donner des chances de faire quelque chose sur cette espèce, il fallait aller donc sur l'espace où on est allé, donc qui est l'affût est construit en bordure d'une grande tourbière, parce que dans cette zone-là, à partir de l'année 2020, il y avait plus d'une dizaine de loups qui passaient régulièrement. Et ça a été le point de départ de notre aventure. On a convaincu notre ami Tanguy Dumortier, qui est présentateur d'une émission de télévision en Belgique sur la nature, qui s'appelle Le Jardin Extraordinaire, et qui était curieux de notre appétence pour cette idée d'aller dans un affût longtemps, suivre une espèce. Et il s'est dit, moi je viens avec vous, je vais vous filmer. On va raconter cette histoire, puis on verra où ça nous mène. Et puis d'un épisode de 15 jours en hiver 2021, on a décidé de prolonger l'aventure et on est resté au final 80 jours étalés sur 2 ans.
Alors, on va comprendre dans vos aventures à l'un et à l'autre qu'il y a aussi ce collectif, hein, ce qu'on embarque, que l'on connaît, ou amis ou autres. Et il y a aussi quand même un bagage, hein, personnel, soit familial ou culturel. Olivier Larrey, donc photographe animalier, adepte depuis toujours, hein, des terres lointaines extrêmes, le grand froid, autodidacte, parisien d'origine. Mais vous avez été biberonné à certaines sources d'inspiration comme celle-ci.
Quand j'avais 15 ans, je voulais aller dans les régions polaires pour l'aventure que ça représentait et parce que les Esquimaux m'attiraient pour leur vie exceptionnelle dans des conditions très difficiles. Je voulais donc faire de l'ethnologie sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et je voulais aussi aller en Polynésie, chez les Tahitiens, chez les Polynésiens, pour la vie assez étonnante qu'ils ont... complètement et justement totalement différente, à l'opposé même des Esquimaux, et pour des raisons très semblables, à savoir non pas le soleil entre les doigts de pied, mais comment et pourquoi ils vivent de cette façon et quelle est la philosophie qui a été la leur. Je résume aujourd'hui comme un homme mûr, mais à 15 ans je me disais rien de tout ça.
Alors, est-ce que vous avez reconnu cette voix ?
Bien sûr, c'est Paul-Émile Victor.
Et oui, il parlait sur France Culture le 1er janvier 1988 dans l'émission Les Chemins de la Connaissance. C'est quelqu'un de votre famille, votre grand-mère, je crois, qui vous a vraiment biberonné, je disais, aux histoires de Paul-Émile Victor.
Oui, exactement. Elle me racontait les récits illustrés de Paul-Émile Victor dans un livre qui s'appelle Nanouk l'Esquimau. Et qui a été coécrit par un Esquimau et Paul-Émile Victor, qui a fait tout un tas de dessins. Et moi, ça a été une fenêtre, un portail vers le monde polaire, qui m'a toujours plus fasciné que n'importe quel autre grand milieu de la nature. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été fasciné par les animaux du Groenland, les aurores boréales, ces manifestations incroyables qu'on peut voir dans le ciel. Et voilà, donc ça a toujours été quelque chose qui a été... très profondément ancré en moi, c'était évident qu'il fallait que j'aille dans le Grand Nord dès que je pourrais le faire. Et j'ai commencé à y aller à l'âge de 20 ans. J'ai commencé par la Norvège.
Alors il faut aussi préciser que vous avez eu l'occasion de partir avec votre frère qui lui aussi est photographe, hein, qui s'appelle Frédéric,
c'est ça.
En quête de la panthère des neiges, je crois, hein, au Népal. Enfin, vous avez de nombreuses aventures à votre actif. Et aussi donc cette façon de partager l'aventure avec d'autres. Alors on peut peut-être dire que sur Terre de Loup, donc vous êtes accompagné de Yves Fagnard qui est aquarelliste, peintre belge, que vous avez rencontré en 2016 je crois dans la Taïga.
Exactement.
Et alors, compagnonné avec un aquarelliste, pourquoi ?
En fait, c'est mon copain Thomas Roger, avec qui je travaillais sur un livre qui s'appelle Taïga, qu'il avait rencontré sur un festival et il m'avait dit « Écoute, on fait un travail photographique sur la Finlande, mais c'est vrai que ce serait sympa de s'adjoindre les compétences d'un aquarelliste. J'ai rencontré quelqu'un dont le style me touche et il voudrait venir faire des dessins en Finlande. Est-ce que tu pourrais, quand la prochaine fois que tu y vas, lui proposer de venir avec toi et comme ça, il profitera de tes connaissances de terrain ?» Donc Yves est venu avec moi et on a fait une quinzaine de jours en Finlande et puis j'ai pu découvrir le personnage, bien sûr, mais aussi sa façon de travailler. Donc Yves, c'est quelqu'un qui fait énormément de dessins sur le terrain. Moi, j'ai été fasciné de voir qu'il s'installe au milieu d'une tourbière, il prend une petite palette en bois, il accroche une feuille, il a un pot à eau et c'est parti.
Au fusain et à la peinture.
Ouais, c'est un aquarelliste, hein, il fait vraiment de l'aquarelle. Mmh. Il commence par faire des dessins au trait. Et puis quand il a le temps sur le terrain, parce que la scène est encore bien présente, eh ben il va poser la couleur. Et je me rappellerai toujours d'un signe auquel il a donné vie dans une tourbière. Il a peint un signe et à la fin, je voyais la scène et d'un coup, il met l'œil. Et là, d'un coup, le signe, il est vivant, quoi. J'ai été touché par ça. J'aime pas faire les choses tout seul. Honnêtement, je crois que j'ai jamais fait un projet tout seul. J'aime partager l'aventure, prendre des décisions ensemble. J'aime bien admirer. Quand je suis touché par le travail de quelqu'un, ça peut m'emmener très loin. Et je suis très admiratif du travail de Yves et je pense que si j'avais pas été touché par la photo, j'aurais essayé de faire du dessin. Et donc quelque part, à travers ce qu'il fait, ça me permet d'une certaine manière de vivre ce que moi j'aurais essayé de faire. Je sais pas ce que ça aurait donné évidemment, mais ça me plaît de voir l'expression dessin de ce que je fais en photo.
Élise Rousseau, vous aussi, alors vous avez un bagage familial et puis vous aimez aussi partager l'aventure puisque vous allez être embarquée par quelqu'un qui vous est proche, hein, un ornithologue passionné.
Alors. Alors, vous l'avez reconnu,
celui-là. Oui, c'est le Cirapte paradoxal. C'est un oiseau de Mongolie, du désert de Gobi. Alors, ça aussi, c'est un oiseau pour l'occidental. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que, comme Genghis Khan et ses troupes, ouais. Il faisait de grandes invasions dans l'Ouest et allait jusqu'en Europe. Et puis, il est venu ainsi jusqu'en Grande-Bretagne et en France jusqu'à la fin du 19e, début du 20e. Et puis, ces espèces de grands afflux ont cessé, probablement du fait de la diminution des populations, pour d'autres causes qu'on ne connaît pas bien. En tout cas, c'est un oiseau extrêmement mythique, parce que les auteurs anciens en parlaient. L'arrivée du cirapte qui venait de Mongolie, c'était quand même quelque chose d'incroyable.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Élise Rousseau, on entendait donc la voix de celui qui est votre compagnon, Philippe Jacques Dubois, on plus communément appelé Philippe Dubois, et on l'entendait dans l'émission Le Temps d'un bivouac, c'était le 5 août 2014. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux en Bretagne, besoin quand même d'être aussi dans un environnement où la nature est présente. C'est donc votre compagnon qui vous embarque ou sur les aventures, ou vous en aviez vécu seul peut-être avant?
Bon, on s'est rencontrés à la Ligue pour la protection des oiseaux, donc je travaillais déjà à la protection des rapaces en fait, donc voilà, un goût commun pour la protection de la nature, des oiseaux, et alors bah après ça dépend des projets, il y en a certains où c'est plus lui qui m'a embarqué et d'autres c'est davantage moi.
On peut dire que votre famille aussi vous a embarqué, peut-être oui. toute gamine, puisque vous êtes petite fille d'un directeur du laboratoire d'écologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. C'était un spécialiste des colamboles, ces tout petits insectes de quelques millimètres qui vivent sous terre. J'ai noté que vous aviez aussi un autre grand-père jardinier, c'est ça, féru de jardin. Et vous êtes fille d'une dessinatrice scientifique.
Oui, aussi. Oui. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui côtoyaient la maison, que ce soit des grands-parents ou de mes parents, en fait. Il y avait un monde scientifique et puis naturaliste. Alors, dans les deux sens, effectivement, soit le naturalisme scientifique, soit mon autre grand-père qui était un homme qui adorait aussi les oiseaux, les bois, qui m'emmenait me promener, chercher des champignons. Voilà, il y a plein d'approches possibles de la nature, en fait, et toutes sont belles et bonnes, à mon sens.
Si ce n'est que vous partez plus sur un parcours d'études littéraires, philosophiques, oui. Et la philosophie, la littérature.
Oui, et c'est aussi, c'est ce que j'essaye effectivement de transmettre dans mes livres, c'est cette approche, en fait, de la nature qui, même si on est dans un contexte naturaliste, on peut aussi en avoir une vision poétique, une vision philosophique, un peu d'autodérision aussi par rapport à tout ce qui nous arrive, parce que c'est pas toujours c'est pas toujours très reluisant. On vit aussi des moments un peu extrêmes dans certaines aventures. Parce que j'ai beaucoup hésité effectivement entre la biologie et les lettres. J'ai fini par réussir à concilier les deux en essayant de pouvoir entraîner le lecteur dans le monde de la nature, mais à travers les mots.
Oui, parce que vous avez commis à ce jour, je crois, peut-être une trentaine de livres, oui. C'est ça? Et aussi beaucoup à destination ou des familles ou des enfants.
Oui, aussi pour les enfants. Oui.
Et alors, ce voyage dans le désert de Gobi en Mongolie, vous partez tous les deux, mais pas que. C'est-à-dire, avec vous, il y a trois autres naturalistes français, six mongols. Voilà, expliquez-nous un petit peu comment ça se met en place, parce que la Mongolie, c'est quand même deux fois la France. C'est un désert essentiellement de pierre, on peut dire,
oui.
Où il fait 40 l'été et moins 40 l'hiver.
Il y a des grosses variations thermiques. C'est vraiment un désert extrêmement aride. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment de me promener quelque chose comme peut-être, comme on peut imaginer, la surface de Mars ou de la Lune. C'est un désert très minéral. Et moi, j'ai été vraiment extrêmement touchée par ces lieux. Donc, on nous sommes rendus. C'était vraiment aussi une aventure humaine avec une équipe mongole qu'on connaissait déjà parce qu'on était déjà parti avec eux. Un professeur à l'université d'Oulan-Bator, Terbich, qui est spécialiste, lui, des amphibiens, des reptiles. Donc, il était très content parce qu'il y avait des petites choses à chercher dans ce désert qui m'intéressaient beaucoup. Amusant, ce que je racontais dans le livre, c'est que finalement on était plusieurs écrivains naturalistes, donc Philippe effectivement, il y a aussi Pierre Cabard qui a écrit L'étymologie des noms d'oiseaux, un livre que j'adore, dont je parle
dans le livre, qui s'appelle Mazalaï.
Notre ami Mongol Terbich a écrit aussi lui un guide des amphibiens et reptiles de Mongolie, donc c'est un vrai salon littéraire naturaliste au fin fond du désert de Gobi.
Et alors, quelle était la quête de Philippe Dubois et la vôtre?
Il y avait une fauvette, une sous-espèce de fauvette babillarde liasse désert, en fait, que Philippe avait envie d'aller enregistrer. L'idée, en fait, c'était de suivre les rangers qui s'occupent de la protection de l'ours de Gobi. On a eu cette chance, puisque Terbich connaît un peu tout le monde. Il a eu beaucoup de personnes en élève à son université, donc il connaît un peu tous les naturalistes de Mongolie. Donc, ils ont été d'accord pour nous emmener les suivre dans cette... ils allaient relever les pièges photos pour suivre l'espèce d'ours qui vit dans ce désert de Gobi.
Qui est végétarien.
Qui est un ours végétarien, qui est un tout petit ours, une sous-espèce de l'ours brun, et dont il ne reste que... à l'époque, quand j'y suis allée, il en restait une quarantaine. Maintenant, c'est une cinquantaine. Donc, c'est vraiment l'ours le plus rare du monde. Il en reste très, très peu.
Et qui fait l'objet de protection, quoi.
Oui. Oui, en Mongolie, là, cette année, le gouvernement mongol a décrété que c'était 2024, l'année de protection de l'ours. Ils font beaucoup de choses, les Mongols. Ça s'est encore accéléré, leur protection, ces dernières années. Et donc, ben voilà, on a eu cette chance incroyable de pouvoir suivre cette équipe mongole. Et ben voilà, on est parti en espérant. Ben voilà, il y avait aussi des oasis où il y avait de la panthère des neiges, où il y avait des ours, des chameaux sauvages. Donc, on espérait voir peut-être, mais avec pas beaucoup de certitude, certains de ces animaux. Donc, on est parti en quête de cette faune du fin fond du désert de Gobi, qui est dans la zone vraiment la plus protégée, aride de ce désert, une zone vraiment, ils appellent ça le Gobi A, c'est vraiment loin de tout.
Et en quête de soi aussi, hein, de silence, de s'évader, je reprends une de vos phrases, pourquoi restons-nous si souvent sur le quai de nos existences? Et on sent que quand vous nous faites vivre par les mots, là, pour le coup, hein, pas par la photo ou par les aquarelles, mais par les mots, cette immersion, vous nous rendez vraiment les couleurs du désert de Gobi et puis toutes ces émotions naturalistes aussi.
Cette expérience, je pense que c'est ce qu'on vit tous en tant que naturaliste. On parlait de l'affût tout à l'heure. On cherche, on espère quelque chose. On n'est absolument pas sûr de le trouver. La plupart du temps, on est bredouille. Hein, c'est quand même l'essentiel de la vie naturaliste, c'est de ne pas voir ce qu'on aimerait voir. Mais je crois que, en fait, c'est presque un prétexte, en fait, finalement, cette recherche pour aller, en fait, on recherche quelque chose en nous aussi, c'est vraiment une quête. Moi, cette expérience dans le désert, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur la solitude et le silence, et comment j'appréhendais ça, comment je vivais le fait d'être vraiment coupé de la civilisation pendant quelques temps. On peut avoir ces expériences naturalistes, on n'est pas obligé d'aller en Finlande ou en Mongolie, on peut aussi l'avoir chez soi, en fait, mais c'est vraiment, dès lors qu'on est dans l'attente, dans la recherche, dans la connexion intime avec cette nature, en fait, on découvre d'un point de vue philosophique beaucoup de choses sur soi, et aussi sur nos rapports aux autres, notre rapport au monde.
Et alors, est-ce que l'ours de Gobi, à l'image du loup, hein, parce que ce sont quand même des animaux qui développent des sens, et notamment l'odorat, je crois que le loup a un odorat 1 million de fois plus puissant que le nôtre, Olivier Larrey, c'est ça?
Ouais, c'est très sensiblement, hein. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de détecter.
Est-ce que l'ours de Gobi a les mêmes facultés ou pas? C'est-à-dire, en un mot, dans cette relation quand même, et la quête à l'animal sauvage, on se rend compte que ce sont souvent eux qui vous repèrent avant vous quand même.
Ah bah oui, l'ours de Gobi, le principe c'est que normalement on le voit pas, c'est vraiment un animal extrêmement farouche, et donc bah ils se cachent, en fait ils ont extrêmement peur de l'homme, donc s'ils peuvent globalement nous fuir, ils le font, donc bien sûr que ce soit les ours de Gobi, les panthères des neiges, mais aussi chez nous, hein, aller approcher un chevreuil ou un renard par chez nous, c'est compliqué, hein, donc bien sûr tous ces animaux sont extrêmement farouches et à raison malheureusement.
Et puis un jour, bien voilà, l'ours ou le loup se laisse voir.
Il y a un loup qui est là. Réveille-toi.
Donc c'est juste magique, on est des privilégiés d'y faire ça, là, aujourd'hui. C'est incroyable. À tout moment, ils peuvent partir, donc il faut qu'on soit hyper, hyper vigilants. Donc, c'est-à-dire silence absolu. Ils sont tellement silencieux, tellement intégrés dans leur milieu que on les voit pas revenir. Tout à coup, ils sont là, quoi. Quel cadeau, quoi. C'est vraiment quel cadeau. Très touché.
Eh oui, un cadeau, on le perçoit, hein, que ce soit dans votre histoire, Olivier Larrey, ou dans celle d'Élise Rousseau. C'est vraiment ce côté, se sentir accepté par les animaux. Vous parlez aussi du regard. Non seulement il y a ce loup, mais il se pose devant vous et il y a ce regard que vous percevez. Faites-nous partager ce moment-là, Olivier Larrey.
Moi, j'oublierai jamais le regard du mâle alpha. Donc, la meute est toujours constituée d'un couple dominant et c'est sa descendance qui fait le complément de la meute. En mars 2021, on a mis 12 jours à observer la meute de loups. Donc il faut imaginer que en mettant un dispositif qui donne toutes les chances de marcher dans l'endroit qui était probablement à ce moment-là le meilleur pour observer le loup en Finlande, il a fallu 12 jours pour observer la meute et on sortait au terme du 13e jour. Et donc les loups sont venus une demi-heure. Donc on avait quand même un outil qui nous a aidé à comprendre ce qui se passait la nuit parce qu'en mars, en Finlande, la nuit est très longue. On avait une caméra thermique et on voyait bien qu'à 400-500 mètres, il y avait de l'agitation la nuit, mais jamais les animaux venaient pas à proximité de l'affût. Et au terme du 12e jour, ils sont venus, ils étaient 6, et j'oublierai pas le regard du mâle alpha qui nous a regardés. On voit bien qu'il sait pertinemment qu'on est là, on a estimé par rapport à ce qui s'était passé au préalable, parce qu'on a eu des observations très brèves de un ou deux loups en lisière de forêt à 400 mètres, qu'en fait, les animaux, ils ont mis 12 jours à décider qu'on ne représentait pas un danger en quelque sorte. Et donc, ils ont pris le risque de venir. Ça, c'est notre interprétation, parce qu'il faut imaginer que quand on est dans un affût immobile, il y a la partie qu'on voit, on est à mi-chemin entre le réel et l'hypothèse en permanence. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne voit pas, on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, quand ils partaient pendant 6 jours, on s'est dit, ben, c'est simple, ils vont marquer leur territoire, ils vont chasser, ils ont peut-être attrapé un élan, pas très loin, et voilà, c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Et du coup, c'est normal qu'on ne les voit pas passer. Et à un moment donné, ils reviennent, ils marquent leur territoire, ils viennent voir s'il y a quelque chose d'intéressant en périphérie de notre affût. Ils sont restés une demi-heure et puis ils sont partis. Mais ça justifiait ce regard, cet échange de regards, ça justifiait toute la démarche en fait.
Élise Rousseau, ces échanges comme ça très intenses hein, avec le vivant non humain et sans crainte de la part des espèces ou des animaux, vous nous les faites vivre aussi dans votre livre, par exemple avec le jeune traqué du désert de Gobi. Il est sans peur, il n'y a pas de méfiance des humains, c'est assez rare quand même.
Mais parce qu'il n'en avait jamais vu, je pense que voilà, c'était une nichée qui commençait à voler en fait et qui est venue volter tout autour de moi parce qu'ils étaient très curieux de voir cette drôle d'animal dans le désert qu'ils n'avaient pas encore vu et qui était un humain. Il y a quelques espèces hein, comme ça dans le monde qui, n'ayant pas vu l'humain, n'ont pas appris à en avoir peur. Et ça montre justement ce que je disais tout à l'heure, à quel point les animaux qui nous connaissent nous fuient. Moi, ça me fait toujours beaucoup de peine de me dire à quel point le monde animal nous considère comme un danger public numéro un, hein, clairement. À raison, bien sûr, mais c'est vrai que dans le désert de Gobi, de voir ces traqués qui vraiment venaient volter, mais tout près de mon nez, enfin, tout avec une curiosité, je pense, extrême, ça montre que, ben, en fait, on pourrait avoir des rapports avec les animaux extrêmement pacifiés si on arrêtait de se comporter comme des prédateurs ultimes, quoi. Hein. Donc, et bien sûr, c'est extrêmement touchant.
Et alors, l'ours de Gobi, Élise Rousseau, est-ce que lui aussi, il a cette façon de choisir ses moments?
L'ours de Gobi, lui, son but, c'est de ne pas voir les humains, manifestement. Ça a sûrement été un ours, par le passé, il y a très longtemps de ça, qui a dû être chassé. Le fait qu'il en reste vraiment plus beaucoup. Alors là, son problème actuel, c'est plus un problème de réchauffement climatique, en fait, parce que même un désert peut devenir de plus en plus sec, en fait. Ça paraît étonnant. Mais du coup, il y a de moins en moins de points d'eau, il y a de moins en moins de végétaux. Là, c'est vrai que c'est un animal compliqué à voir. Et les Mongols, je crois, c'était l'an dernier, en ont équipé un d'un émetteur pour pouvoir suivre justement un peu connaître un peu mieux ses activités, sa biologie. Mais oui, c'est un animal extrêmement farouche.
Alors, on ne dévoilera pas la fin de votre livre, hein, Élise Rousseau, bien sûr. Donc, pour savoir si vous avez vu ou pas vu l'ours, il faudra plonger dedans. Mais en tout cas, on peut quand même signaler que parmi toute cette troupe hein, de naturalistes, d'aventuriers, de spécialistes, vous étiez quand même fermement bien décidé à aller jusqu'au bout. Et on voit aussi qu'il y a peut-être une part de hasard, mais une part de ténacité aussi. C'est de se dire, s'accrocher à un rêve et se dire, je suis pas venue jusque-là, peut-être pour, mais il y a cette part de...
Mais je crois que c'est le cas pour tous les rêves, en fait. C'est pas seulement les rêves de naturalistes, c'est tous les rêves humains, en fait. Il y a toujours cette part de persévérance et après un petit coup de pouce de la vie, des fois, de hasard, de bonnes rencontres. Ben, dans la nature, c'est pareil, en fait. Pourquoi l'animal, des fois, va passer à ce moment-là et pas à un autre, et nous, on était là à ce moment-là. Et il y a une part de chance, mais il y a aussi une part de... Ben, plus on est dans la nature, plus on a de chance de croiser des animaux, plus que en restant chez soi. Donc c'est un peu le mélange des deux, effectivement.
Et la question du danger, on y pense ou pas forcément, ou vous y avez peut-être été et l'un et l'autre directement confrontés, Olivier Larrey?
Quand on fait de l'affût dans une petite cabane en dur, le danger, il n'existe pas. Enfin, voilà, on a une barrière physique avec l'animal et on sait très bien que, contrairement à l'Amérique du Nord, par exemple, un ours, par exemple, il ne va pas tenter d'entrer dans une cabane dans lequel il y a des êtres humains, parce qu'il va sentir d'abord qu'il y a des êtres humains, il a une peur viscérale de l'homme. L'ours brun, il est chassé, par exemple, en Finlande, de manière traditionnelle, comme en Russie. Et donc, il ne va pas s'approcher. Moi, la seule fois où j'ai observé un ours en me promenant, je faisais des photos d'écureuils volants, qui est une espèce singulière de la Finlande. Et ben, l'ours, il est arrivé vers moi, entre deux buissons, et dès qu'il m'a vu, il a fait demi-tour, et il a détalé, je ne l'ai jamais revu, quoi. Quand on voit un animal, parce qu'il n'est pas parti avant qu'on puisse le voir, ce qui est la plupart du temps le cas, et ben de toute façon, il va détaler, quoi.
Élise Rousseau?
J'ai un côté très peureux, donc ce que dit Olivier, il a parfaitement raison. Je le sais objectivement. Mais après, ce que j'écris d'ailleurs dans un de mes livres, j'ai écrit un livre sur les loups, c'est qu'en fait, on a un tel imaginaire que même moi qui suis naturaliste depuis longtemps, petite fille de naturaliste, etc., ça m'arrive effectivement de me faire des scénarios catastrophes, d'avoir des espèces de peurs archaïques et totalement irraisonnées, dont je plaisante, hein, si j'en parle dans mon livre. Et, voilà,
oui, vous et avez ça, beaucoup d'humour.
Ça consterne beaucoup mes collègues naturalistes souvent, mais c'est vrai que c'est quand même des animaux impressionnants, malgré tout. C'est des grosses bêtes. Alors, après, vous savez, j'ai aussi des chevaux, ils peuvent me faire peur aussi parce qu'ils sont gros. Mais malgré tout, je persiste à penser que l'animal quand même le plus dangereux de la Terre, c'est l'être humain. Effectivement, en réalité, dans la nature, on reste quand même beaucoup moins que dans une ville.
Allez, il est temps de découvrir l'un de vos choix musicaux, Olivier Larès, et votre choix justement que nous allons donner à entendre. Vous avez choisi une chanson de Mathieu Chédide.
Oui, qui s'appelle Manitou Mani, qui fait partie d'un album qu'il a réalisé avec des musiciens maliens, et c'est un album qui me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup l'ouverture que représente cet album entre la musique française incarné par Mathieu Chédide et ce groupe de musiciens maliens. Et je trouve que le mariage est vraiment sublime.
J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaiser, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies, allez chanter tous ensemble plus fort.
Come on.
C'était Manitou Mani, chanté par Mathieu Chédid, et c'est la suite du magazine de l'environnement de France Culture. De cause à effet, nous sommes en compagnie de nos deux invités, arpenteurs et rêveurs de nature. Nous cheminons sur la piste du monde sauvage avec Olivier Larrey, photographe animalier professionnel, auteur avec Yves Fagnard du livre Terre de loup, édité par Le Regard du Vivant. Et on peut aussi mentionner le film réalisé par Tanguy Dumortier, L'affût au loup. Et avec nous également Élise Rousseau, autrice, scénariste de bande dessinée, passionnée par la nature, les animaux, les chevaux notamment, et puis d'autres espèces, bien sûr, Élise. Et vous êtes l'autrice du livre Mazalaï, un livre édité chez Albin Michel. Ce monde sauvage, il suscite vos envies, toute votre attention, mais on voit bien qu'il suscite aussi d'autres envies.
Dans l'immensité du désert de Gobi, aux confins de la Chine, cette oasis apparaît comme un mirage. Dunhuang fut longtemps au carrefour des mondes, un point de ravitaillement obligé qui a vu passer pendant des siècles des caravanes de marchands. Aujourd'hui, ce sont des hordes de touristes qui foulent ce désert à dos de chameau. 12 euros la balade, les touristes se succèdent.
Voilà, j'ai un peu peur, je ne suis jamais monté sur un chameau.
Les chameaux et surtout les chameliers comme Ruan Xing sont débordés.
En saison haute, on fait plus de 10 balades par jour, ça n'arrête pas.
Ici, c'est un peu l'autoroute des vacances, ce qui fait les affaires de Wangxi.
Nous, le monde, ça ne nous fait pas peur. Même si c'est fatigant, c'est comme ça qu'on gagne notre vie.
Ici, c'est un endroit pour se détendre. Je préfère subir les embouteillages ici qu'en voiture.
C'est bien mieux que l'air pollué de Pékin.
4x4, quad, ULM, tous les moyens sont aujourd'hui mis en place par les autorités pour développer et attirer les touristes essentiellement chinois. Il y a même 6 hélicoptères qui assurent des survols de 5 minutes à peine, moyennant 85 euros. Ces dunes de Dunhuang sont ouvertes au public toute l'année. La saison haute s'achève, elles ne durent que 3 mois, car en hiver, à 1100 mètres d'altitude, elles sont souvent recouvertes de neige.
Reportage diffusé sur France 2 dans le 20h du 8 octobre 2018. Des hordes de touristes dans ce désert de Gobi. Le tourisme décrié pour ses méfaits, est-ce qu'il doit être repensé pour favoriser plus d'empathie, une autre attitude, peut-être aussi un autre rapport à la nature dans cette urgence aujourd'hui dont on parle, les défis environnementaux et climatiques. Élise Rousseau, est-ce que ces scènes-là, vous y avez assisté ou pas?
Ah non, absolument pas. Vous savez, le désert de Gobi, ça fait 1 300 000 km², donc là, ça, apparemment, c'est du côté chinois. Je sais pas, apparemment, ils parlent d'une oasis qui était déjà fréquentée autrefois par l'homme, par les caravanes. Non, moi, j'ai absolument rien vu de tout ça, ni de près ni de loin dans le désert de Gobi. Et si vous lisez mon livre, vous verrez que c'est quand même un endroit extrêmement hostile, bourré de tiques. Et quand il y a de l'eau, bourré de moustiques ou de temps. Donc, je crois que les touristes n'iront jamais là-bas.
Donc, il reste encore des zones plus préservées dans ce désert de Gobi.
Ah, bah, toutes quasiment. Oui. Le principal problème, ça va pas tellement être le tourisme, parce que je vois pas trop des touristes se rendre là-bas. C'est plutôt les convoitises minières, parce que le sous-sol est bien sûr intéressant. Mais et ça pourrait créer des forts dérangements aux quelques rares espèces qui y vivent.
Oui, une Mongolie convoitée pour ses ressources est prise entre la Chine et la Russie, avec des appétits féroces, bien sûr, on le perçoit. Et c'est ces questions que vous soulevez aussi. Enfin, en tout cas, c'est se poser la question de ces ours de Gobi, des chameaux sauvages, des panthères des neiges qui pourraient peut-être devoir se cacher encore plus des hommes ou essayer de s'extraire.
Là où ils sont, ils ne peuvent pas aller plus loin en fait. Ils ne peuvent pas aller plus loin, ils sont au plus loin du plus loin en fait.
Olivier Larrey, cette question du tourisme, parce que je sais que vous avez peut-être aussi le sentiment qu'il faut quand même donner à montrer, à voir, mais vos photos, vos films le font aussi. Est-ce qu'il faut être dans la préservation et dans l'interdiction? C'est quoi le juste milieu selon vous?
Alors, c'est une question qui n'est pas évidente, je trouve, parce que le problème, c'est que la nature a horreur du vide et que, comme Élise le soulève, le désert de Gobi, il est préservé dans la zone où elle est allée par le contexte géographique, climatique. Mais s'il n'a pas d'intérêt pour le tourisme, le problème, des fois, c'est qu'une terre où il ne se passe rien, pour peu qu'il y ait un intérêt économique qui arrive, si on considère que c'est le seul intérêt, que la nature n'a pas un intérêt à cet endroit-là, on trouvera plus facilement une légitimité à exploiter le terrain. Et c'est ça qui est dramatique. Et je trouve que le tourisme, si on regarde de manière générale, il y a toutes sortes de dérives, etc. Mais dans certains cas, c'est un contrepoids qui peut être assez puissant pour dire l'activité qui doit être exercée dans cette zone-là, c'est l'observation de la nature et pas autre chose. Parce que si on fait autre chose, ça va détruire le patrimoine naturel qu'on considère comme étant quelque chose de la chose la plus importante à mettre en place. Par exemple, je le vois dans l'Arctique, j'ai l'occasion d'aller dans l'Arctique sur des petits bateaux, donc on emmène, j'y vais dans un mois, je serai avec 10 personnes, on va longer les côtes des îles du Svalbard, il y a des ours polaires, des morses, des glaces, etc. Et c'est une zone qui est de plus en plus protégée, avec des lois qui sont de plus en plus strictes pour la protection des animaux et des habitats. Et ça préserve d'une part la faune et les habitats, bien sûr, mais aussi d'autres activités qui pourraient être de l'exploitation minière, du charbon, toutes sortes de choses en fait, de la pêche. Et en ça, je trouve que c'est intéressant.
Les zones dont vous parlez sont aussi touchées par les effets de la crise climatique, les conséquences sur le vivant. Qu'est-ce que vous avez repéré, relevé, observé, et l'un et l'autre justement, en lien avec cette crise climatique ?
Alors au Spitzberg, évidemment, il y a une manifestation qui est évidente, c'est le retrait des glaces. Donc la glace de mer, elle disparaît plus tôt qu'avant, très nettement. Et elle est très importante parce que c'est un réflecteur naturel du rayonnement solaire. Quand elle est très présente, eh ben, elle freine le réchauffement climatique. Mais à l'inverse, quand elle disparaît très tôt, l'effet du soleil est plus marqué. Et il y a aussi évidemment la glace des glaciers. On voit les glaciers qui reculent régulièrement et qui remontent vers les hauteurs. Et ça, c'est évidemment inquiétant.
Oui, le dégel du permafrost, perturbation des saisons, des régions, on imagine les effets sur la vie animale, ne serait-ce que sur l'hibernation, qui ne se fait plus de la même façon déjà dans certains pays. Élise Rousseau, sur ces questions-là d'observation des effets de la crise climatique.
Dans le Gobi devient de plus en plus sec, donc ça pourrait paraître toujours étonnant, mais même là-bas, il peut faire encore plus sec. Après, moi, c'est presque plutôt au quotidien en Bretagne que je m'en rends compte. C'est-à-dire qu'à la Bretagne, avant, on voyait jamais personne, et puis maintenant, tout le monde adore y venir. Oui. Parce qu'il pleut plus assez à part cet hiver où ça a été terrible. Et puis aussi, c'était l'année de la sécheresse, il y a eu des incendies un peu partout autour de chez moi en Bretagne. Et c'est vrai que pour une région qui est censée être humide, c'était un peu angoissant. Ouais. Donc oui, bien sûr, il y a des choses au quotidien aussi.
D'où l'intérêt de donner à voir aussi. Peut-être avez-vous des projets pour nous faire voir ces évolutions, Olivier Larrey, à travers les photos. Je sais que l'un et l'autre, vous avez aussi des engagements auprès des enfants, dans les classes, ou auprès de vos propres enfants. Écoutez ce reportage justement, Olivier Larrey, avec votre fils Eliel.
J'ai des choses à te montrer là. J'ai quelques belles images là, je pense, de mon reportage dans l'Arctique.
Ça, c'est des limaux de pleurniche que j'ai eu il y a quelques jours.
Il est trop beau.
Il est joli, hein?
Ouais.
Avec les poils super ras. Ouais, il est trop mignon. C'est une toute petite boule, vraiment comme ça.
Cette photo, j'aimerais bien l'avoir dans ma chambre. J'ai envie de les caresser.
300 grammes. Et grand comme deux écureuils, quoi. Si tu veux qu'on essaye d'en trouver chez nous, on peut essayer, hein?
Ce serait trop bien.
Il faut qu'on parte autour de chez nous, qu'on explore, qu'on cherche aux jumelles, qu'on essaye de trouver d'abord des adultes, et puis après, avec un peu de chance, on peut essayer de trouver des jeunes.
J'aimerais trop.
Reportage diffusé sur France 3 le 10 mars 2024. Olivier Larrey, c'est important justement, c'est peut-être même prioritaire aujourd'hui dans nos sociétés de sensibiliser, éduquer d'urgence, aller au contact des enfants d'une manière générale.
Oui, j'y pense de plus en plus et j'essaye de garder une part de plus en plus importante pour des temps d'échange avec le plus jeune public, les enfants. Parce que il me semble que pour protéger de manière efficace, déjà il faut commencer par protéger son environnement proche, mais il faut le connaître un minimum. Et ce que je me dis tous les jours, c'est que ce qui serait important dans l'enseignement, c'est que les enfants leur apprennent à lire, à compter, etc. Il faudrait qu'ils connaissent aussi une centaine d'animaux, une centaine de plantes qui les entourent, pour que par exemple, quand ils voient un beau chêne qui est coupé dans le village, ils disent, bah non, il faut pas couper ce chêne parce qu'il a 150 ans, qu'il fait partie du patrimoine de la commune, comme on détruit pas un vieux bâtiment ou quelque chose auquel on peut être attaché dans son environnement. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de culture. Et je vois bien quand je vais dans les écoles parler de mon travail, les enfants ont des repères quand je leur parle des ours, des loups, etc. Mais quand on parle d'une maison charbonnière ou d'un pinson, ah ben là, très vite, il faut reprendre à la base. je serais attaché à ce que voilà, les enfants ils aient un bagage au départ qui leur donne des clés de compréhension de leur environnement proche pour pouvoir après appréhender des environnements plus lointains, mais c'est peut-être des questions à avoir dans un deuxième temps pour eux.
Élise Rousseau, sur ces questions-là justement de transmission et aussi peut-être donner à comprendre que le monde environnant qui est celui auquel on est habitué, dans lequel on est élevé, c'est aussi un monde où finalement le vivant, c'est plus du vivant d'élevage hein, que du vivant naturel. Le vivant sauvage, il reste très peu hein, en pourcentage hein, si on regarde les chiffres de ce vivant sauvage. Et que reste-t-il même des zones suffisamment vierges de la présence des humains pour que ce monde sauvage puisse vivre normalement, sans peur, avec les autres espèces sur Terre.
Oui, mais la transmission, moi je le fais aussi par des livres pour les enfants. C'est vrai qu'en écoutant Olivier, je me disais que moi, dans mon expérience, c'est vrai que les enfants, ils ont quand même un lien aux animaux naturels, même pas, ça peut être par le biais des animaux domestiques, hein, qui peut être une bonne porte d'entrée aussi. Que ce soit les enfants ou les jeunes, hein, globalement, moi je les trouve assez motivés pour la protection de la nature. Et des fois, je me dis, il faudrait en fait écrire des livres plutôt pour les personnes qui sont au gouvernement, etc., qui sont plus âgées. C'est eux qui résistent. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un mouvement d'éco-anxiété, même très fort, chez des jeunes gens, en fait, qui a un vrai souci. Parce que eux savent que c'est leur avenir et qu'ils en ont encore pour pas mal d'années à faire avec cette terre. Et je pense qu'il faudrait aussi que les adultes plus vieux, en fait, prennent mesure de ça. Oui.
Il faudrait les emmener dans le désert de Gobi pour qu'ils puissent connaître cette vibration sourde de la vie. C'est ça, Élise Rousseau ?
Oui, en fait, ça c'est vraiment l'expérience du silence hein, que vous décrivez. C'est vraiment étonnamment, pour moi, ça a été une expérience extrêmement rassurante, moi qui suis un peu effectivement froussarde. C'est-à-dire que c'est l'expérience du silence et de la solitude, et l'expérience du fait que la vie arrive à vivre même dans ce désert le plus désert possible. J'ai trouvé ça très rassurant. Je me suis dit, et aussi cette sensation que le monde est beau quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même si il n'y avait plus rien sur Terre. J'imagine que sur Mars ou la Lune, il y a aussi des levées de soleil. Il suffit qu'il y ait encore une goutte d'eau et la rosée du matin étincelle. Enfin, il y a une telle beauté en fait, dans le monde que ça, on ne pourra jamais la détruire. En fait, même si c'est presque présomptueux de la part de l'homme de penser qu'il va pouvoir détruire tout ça, parce qu'en fait, la vie est tellement forte et intense, même dans les lieux les plus reculés, et même dans un tout petit oasis, il peut y avoir tellement de choses.
Et dans un tout petit oiseau comme la fauvette de Gobi, hein, vous nous en parlez, quelques grammes de plume, fruit de millions d'années d'évolution, et en même temps on se sent tout petit face à elle et si humble, puisque cette fauvette, elle vit avec des températures extrêmes et l'homme serait bien dépourvu quand même.
On serait bien malheureux, mais moi je pense notre souci, c'est qu'on risque surtout d'abîmer fortement notre propre espèce, parce que il y aura l'éthique et compagnie, ça va, ils repartiront. Hein.
En tout cas, on peut dire qu'il y a aussi un autre point commun important entre vous, c'est ne pas s'empêcher d'aller au bout de vos rêves. Et je crois que vous avez un ami naturaliste en commun, mais qui n'est plus là, Bertrand Héliotou, ornithologue, spécialiste des rapaces, qui donc est décédé alors qu'il était en mission au Zimbabwe. Il avait 34 ans.
Moi, c'était un de mes collègues de travail qui était devenu un ami dans la protection des rapaces, effectivement. Et suite en fait à sa disparition que je me suis dit, voilà, on faut vivre sa vie. C'était quelqu'un qui vivait vraiment ses rêves jusqu'au bout, même s'il avait peur parfois. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, j'arrête mon travail salarié, je me mets écrivain à plein temps et je vis mes rêves jusqu'au bout parce que Bertrand m'a montré cette voie et que, en mémoire de lui, je veux continuer de la suivre.
Il est toujours là en tout cas, et il y a cette phrase, ce n'est pas parce que c'est un rêve que c'est impossible. C'était ce qu'il guidait, c'était aussi ce que des personnes autour de vous avez donné comme phrase à entendre pour aller au bout de vos rêves.
Oui.
Olivier Larrey, sur ce naturaliste que vous aviez rencontré, je crois.
Tout à fait. Alors moi, à l'époque où je l'ai rencontré, je travaillais sur un livre sur l'aigle royal, le retour de l'aigle royal dans le Massif central. Et donc j'ai été amené à le rencontrer, à échanger avec lui. Et puis il avait une très bonne amie qu'on a en commun, qui a beaucoup travaillé en Afrique sur les éléphants. Et c'est elle qui m'a appris sa disparition. Et j'ai été touché parce que je venais juste de le rencontrer quand il a eu cet accident, un accident bête comme tous les accidents. C'était une perte évidente pour dans le collectif des amoureux de la nature.
Vous restez avec nous, bien sûr. Il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Brice Pedroletti, correspondant du Monde à Bangkok, où le gouvernement fait naître une nouvelle capitale qui se veut être une ville forêt à Nusantara. Bonsoir Brice.
Bonsoir. Donc ce reportage est en fait en Indonésie, hein, c'est le gouvernement indonésien qui a choisi de faire une nouvelle capitale. Donc en fait c'est un projet qui est très intéressant, puisque dès le départ, il y a l'ambition de construire une ville zéro émission carbone. Donc, ils ont fait un concours avec des critères donc très rigoureux en matière de consommation d'énergie, d'émissions, et un principe directeur qui est d'édifier une ville forêt. Donc bon, quand je suis allé sur place, donc j'ai rencontré l'urbaniste indonésien qui a remporté le concours, qui explique qu'il faut tirer parti des vents, puisque c'est un endroit très chaud, de l'exposition au soleil, végétaliser les immeubles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a choisi aussi d'imiter les arbres, c'est-à-dire avec le sommet des immeubles qui sert à la captation de l'énergie, les parties intermédiaires qui sont plus comme des branches, c'est-à-dire où se créent les passerelles entre les immeubles. Donc les parties intermédiaires qui sont plus comme des branches où on trouve les passerelles entre les immeubles. Le sol et le sous-sol devant servir plutôt aux activités plus commerciales.
Mais tout cela est-il bien crédible, Brice, ou est-ce une utopie ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une volonté donc, du président indonésien Joko Widodo de faire une ville zéro émission carbone. Mais là où le projet devient plus utopique, en fait, c'est lorsqu'on réalise que le site sur lequel la ville va être implantée, c'est un site ravagé par des décennies d'exploitation minière et de plantations agro-industrielles. En plus, dans le calcul des zéro émissions carbone de la future capitale, donc entre une grande partie qui représente 25% de l'ensemble de la surface de la future ville qui doit être reboisée. Or, on se demande si c'est vraiment faisable et s'il y aura la volonté de reboiser jusqu'à la fin, puisque déjà il y a le problème de financement de la ville. Surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce président indonésien, il est connu comme le président bâtisseur, donc il a construit, cela fait deux mandats qu'il est président, il a construit des infrastructures et des industries sur un modèle développementaliste, tout en s'efforçant d'apparaître vert, donc avec une feuille de route de transition énergétique. Donc il y a éventuellement une contradiction.
Qu'en est-il dans la réalité ?
Ce qui est révélateur, c'est que ce président, Joko Widodo, donc il a créé des immenses zones industrielles de transformation du nickel, dont l'Indonésie se trouve avoir les plus grosses réserves au monde, avec l'idée de créer une filière de composants de batteries électriques. Mais ces zones industrielles, qui sont réparties dans plusieurs endroits de l'archipel indonésien, font énormément de dégâts en matière environnementale et reposent, puisque ce sont des fonderies, elles consomment énormément d'énergie et reposent sur des centrales à charbon, en fait, qui sont placées hors bilan de cette feuille de route. Donc on voit qu'il y a une part d'éco-blanchissement dans cette stratégie industrielle qui est autour de la nouvelle capitale indonésienne.
Merci Brice Pedroletti.
Je vous remercie.
Et votre article passionnant sur ce sujet est accessible sur la page de l'émission, comme d'habitude, franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Nous arrivons presque au terme de cette émission avec vous, Élise Rousseau, Olivier Larrey. J'ai envie de vous proposer cette citation de Romain Gary qui est dans votre livre Élise Rousseau et qui résonne vraiment à la fois en vous, mais je suis sûre que ça résonne aussi chez Olivier Larrey. La vérité, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire, des moments comme celui que nous vivons, où tout ce qui empêche l'homme de désespérer, tout ce qui permet de croire et de continuer de vivre, a besoin d'une cachette, d'un refuge. Alors pour vous, Élise Rousseau, ce refuge, aujourd'hui, il est où ?
Oh bah mon refuge aujourd'hui c'est en Bretagne, hein, c'est sûr, mais j'ai aussi des refuges intérieurs, c'est-à-dire mes souvenirs effectivement, je rappelle souvent ma mémoire, cette sensation de sérénité que j'ai pu rencontrer dans le désert de Gobi, dans ce silence en fait qui m'apaise, cette idée que le silence me fait du bien, mais j'arrive à trouver aussi des parts de silence en Bretagne effectivement.
Olivier Larrey, de votre côté ?
Alors moi c'est pareil, quand je reviens de voyage et que j'ai besoin de retrouver une sérénité, un paysage avec des bruits, des chants d'oiseaux, des insectes. Ben, j'ai la chance d'avoir, pas très loin de chez moi, une zone ben, justement où j'ai travaillé avec mon fils, avec lequel j'ai fait un film récemment, qui est un havre de paix absolument incroyable. Il y a juste trois fermes et on s'est entouré de prairies et de forêts. Et là, il peut tout arrivé, de toute façon, je serais heureux d'aller là-bas.
Même si l'appel de cette cabane à affût, finalement, cette cabane, elle vous appelle encore ?
Ah bah oui, je vais y retourner. Hein. Je vais passer tout l'été en Finlande, et donc je retournerai dans cette cabane, bien entendu.
Pour continuer tous les deux, en tout cas, à rendre hommage à la nature qui nous environne.
Les louveteaux ! Oh là là, ils arrivent tous !
Il y en a partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 loups. On n'a jamais eu ça.
Nouvelle génération, quoi.
Bah ouais, c'est génial.
Incroyable, incroyable.
Ah, ça, c'est où ? Ils sont tous là.
C'est magique, hein, il y a tous les loups là.
Merci, merci à tous les deux. Olivier Larrey, le livre que vous avez conçu avec Yves Fagnard s'appelle Terre de loups. Il est édité par Le Regard du Vivant. Et à voir aussi le film réalisé par Tanguy Dumortier, L'affût aux loups. Élise Rousseau, on ne peut que conseiller aussi Mazalaï, édité chez Albin Michel. Et également aussi Petite philosophie des oiseaux, édité chez La Martinière. Merci à tous les deux. Bibliographie, informations, liens, autres dossiers sont comme d'habitude à votre disposition sur notre site d'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast, réécoute, vous y attendent. Et puis n'oubliez pas, ce n'est pas parce que c'est un rêve que c'est impossible.
Monte en moi cette sensation. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. Une âme. Les âmes de ma vie, au-delà du sexe d'un amour surex, je voudrais du vrai, pas que la vérité, mais toute cette tendresse comme une caresse. Une âme, une âme, une âme, une âme. Funambule, perdu dans la ville, on pleurait, on priait.